en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, notre invitée est spécialiste de l'évolution du mouvement des satellites naturels et artificiels des planètes et de la Lune. Il poursuivra dans ce domaine tout en regroupant les équipes françaises engagées en géodésie spatiale et il fut le premier directeur du groupe de recherche de géodésie spatiale, le GRGS. Jean Kovalevski, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation au studio de Canal Académie au cœur de l'Institut de France. Vous êtes membre de l'Académie des sciences dans la section sciences de l'univers depuis 1988, mais vous êtes membre aussi d'autres académies, citons l'Académie internationale d'astronautique, l'Académie des technologies ou l'Academia Europae et le bureau des longitudes installé à l'Institut de France. Nous y reviendrons au cours de notre émission. À votre palmarès, plusieurs prix prestigieux, citons deux prix de l'Académie des sciences, le prix Damoiseau en 1963 et le prix Alexandre Ioannidès en 1984 et puis également deux médailles d'argent du CNES en 1966 et en 1977. Au cours de cette émission en habit vert qui vous est consacrée, Jean Kovalevski, nous évoquerons les grands moments qui ont jalonné votre carrière d'astronome. Nous reviendrons bien sûr sur vos travaux, sur vos quatre vies, comme vous me l'aviez dit en préparant cette émission. Mais commençons, si vous le voulez bien, par le début de l'histoire, de votre histoire. Nous allons aborder vos années d'études. Mais auparavant, Jean Kovalevski, quelles sont vos origines ?
Eh bien, mes deux parents étaient des émigrés russes de la Révolution. Ils ont passé quelques années en Angleterre, puis sont arrivés en France en 1926. Mais la situation que mon père avait à ce moment-là s'est terminée en 1929 lors de la Grande Crise. Et pendant 6 ans, donc depuis ma naissance en 1929, il avait beaucoup de difficultés pour faire vivre sa famille jusqu'à ce qu'il soit devenu, après avoir fait des études de droit commercial, il a pris une profession libérale qui lui a permis de payer mes études.
Vous avez donc une double culture ?
J'ai une culture russe puisqu'on parlait russe à la maison et française puisque j'ai fait toutes mes études dans les écoles françaises.
Comment se déroulent vos études ? J'imagine que vous êtes un jeune élève brillant, puisque tout le monde n'a pas l'opportunité d'entrer à l'école normale supérieure.
Oui et non. Il y a eu des hoquets, je dirais, en particulier au moment des années 40, etc., où mon père, ignorant tout du système éducatif français, j'ai triplé ma 7e, parce qu'il voulait que je passe mon certificat d'études, et qu'on ne pouvait pas le passer avant 12 ans.
Donc un élève très doué. Vous étiez fils unique, et j'imagine que vos parents devaient porter beaucoup d'espoir sur vous.
Certainement, oui.
Peut-être auraient-ils voulu vous voir plutôt faire des études de droit, avant de vous lancer plutôt dans le domaine des sciences.
Non, ça, mes parents étaient tout à fait ouverts à tout, et comme j'avais décidé que je voulais être astronome à l'âge de 8 ans, ils ne se sont pas opposés.
Donc depuis l'âge de 8 ans, vous n'avez pas changé d'un iota. Vous êtes resté sur votre idée d'être astronome.
Voilà.
Comment se déroulent vos études ? Vous faites un peu de faculté avant d'entrer à l'école normale supérieure ?
Oui, j'ai fait donc les études secondaires à Jean-Baptiste Say à Paris. Et puis ensuite, j'ai préparé l'examen d'entrée à l'école normale supérieure. J'ai échoué et j'ai donc passé à la Sorbonne. Et j'ai présenté mon concours avec succès, mais depuis la Sorbonne.
Et donc, vous restez bien sûr 4 ans à l'école normale supérieure, où vous devenez donc agrégé de mathématiques, et puis vous entrez directement comme attaché de recherche au CNRS en 1955. Et là, vous faites la rencontre d'André Danjon. Alors, pourriez-vous nous raconter cette rencontre et de cette personne ?
La rencontre s'était faite avant, puisque oui, c'était lui le professeur d'astronomie à la Sorbonne, et dès les premiers cours qu'il a donnés, je m'étais présenté à lui en lui disant que je voulais faire de l'astronomie, si bien qu'il m'avait organisé un stage à l'observatoire dès l'année 52. Après, j'ai fait une année de service militaire et pendant cette année, il m'avait donné un travail à faire qui a été publié au bulletin astronomique. Et puis, je suis revenu et là, il a décidé que c'était la mécanique céleste que je devais faire parce que cela manquait en France et qu'il n'y avait pas de professeur qui aurait pu m'initier à une mécanique appliquée au corps réel, c'est-à-dire vraiment astronomique. Et il m'a envoyé à l'université de Yale, où je suis resté 18 mois à étudier sous la direction du professeur Dirk Brouwer, qui était l'un des très grands spécialistes mondiaux de ce problème.
Et j'imagine que cette discipline était très récente, raison pour laquelle il y avait peut-être peu de professeurs.
Non, au contraire, elle avait été particulièrement vivante et au XIXe siècle, par Lagrange, Laplace, Le Verrier, non, au contraire, les très grands noms. Mais ça s'est effectivement ralenti parce que ça menait à des calculs vraiment inextricables. Ce qui a relancé la mécanique céleste, c'est d'une part, et ça a été l'objet de ma thèse, l'utilisation des premiers calculateurs électroniques pour faire ces calculs, et deuxièmement, le lancement des satellites artificiels. Parce que pour suivre le mouvement d'un satellite artificiel, il faut savoir où il est à chaque instant, eh bien, il faut faire la théorie de son mouvement, et la base, c'est la mécanique céleste.
Et votre discipline, donc, qui va être la vôtre, va avancer, bien sûr, avec les avancées technologiques, avec les premiers ordinateurs, avec, bien sûr, aussi les premiers satellites, comme vous venez de le dire.
Absolument, oui.
Donc, vous êtes à Yale pendant 18 mois, vous revenez, et puis donc en 1961, vous devenez le directeur du service des calculs et de mécanique céleste au Bureau des Longitudes. Alors, le Bureau des Longitudes, j'en parlais à l'instant pour présenter cette émission. Peut-être faut-il rétablir les choses, puisque, effectivement, à Canal Academy, nous retransmettons les conférences du Bureau des Longitudes. Vous, le Bureau des Longitudes auquel on fait référence pour votre parcours, ce n'est pas tout à fait le même.
C'est le même, en ce sens que c'est évidemment la même organisation. Mais il faut dire que le Bureau des Longitudes a été créé encore sous la Révolution, pour établir les éphémérides pour la navigation, ce qu'on appelle maintenant les éphémérides nautiques, et également les éphémérides astronomiques pour suivre la position des planètes en particulier. Et ceci ne pouvait se faire qu'avec un bureau des calculs et des membres du bureau des longitudes qui dirigeaient cela avec toute la compétence voulue. Il s'est trouvé que c'était le cas. Le dernier, ça a été M. Gaillot. Et depuis, il y a eu un manque complet de cela, si bien que les calculateurs qui continuaient qu'à faire les calculs le faisaient sur des tables anciennes, sans aucun renouvellement, et toujours à la main, alors que les ordinateurs arrivaient quand même à cette époque-là. C'est pourquoi André Danjon m'a chargé, en quelque sorte, de remettre tout ça en ordre et a fait créer par le Bureau des Longitudes ce service donc de mécanique céleste et des éphémérides, alors qu'avant c'était simplement le Bureau des Calculs.
Vous allez y rester pendant 10 ans.
Oui.
Vous allez, j'imagine, diriger plusieurs équipes pendant ces 10 années.
Alors, vous savez, les années 60 étaient des années de rêve pour le développement de la science. J'arrivais à embaucher un ou souvent même deux nouveaux chercheurs par an, si bien qu'en 10 ans, ça a fait une très belle équipe. Et à partir de quelques années après, il y avait aussi des thèses tous les ans qui sortaient de toute cette nouvelle génération de mécaniciens célestes, et qui s'est développée jusqu'à ce jour, en ce sens, mais qui a quitté le Bureau des Longitudes selon la volonté du ministère. Et c'est actuellement un institut qui a une cinquantaine de personnes, mais qui s'appelle l'Institut de mécanique céleste et du calcul des éphémérides, et qui se trouve au sein de l'Observatoire de Paris. Alors le Bureau des Longitudes a continué ses travaux de réunion, et de publier l'annuaire du Bureau des Longitudes, dans lequel il y a des renseignements astronomiques, mais souvent d'autres renseignements de caractère général pour le grand public. Et à un moment donné, une dizaine d'années, on s'est dit, mais pourquoi ne pas en faire profiter un public oralement? Et c'est de là qu'est venue l'idée de faire ces conférences mensuelles.
Et que Canal Academy retransmet à l'occasion.
Voilà.
Revenons à vous, Jean Kowalewski. Alors, je le disais, pour présenter cette émission, vous vous intéressez aux satellites naturels, mais également aux satellites artificiels, qui sont les satellites que nous connaissons tous. Et notamment, vous prenez les responsabilités dans le programme spatial français pour les satellites D1A, C et D, qui ont des noms un peu plus sympathiques que ces dénominations. À quoi correspondent-ils?
Bien, le premier satellite D1A, qui s'appelait Diamant, était un satellite où on avait mis seulement un petit répondeur radio. Et dans un certain sens, c'est un espèce de... Il y en avait déjà eu un américain avant du même genre. Et c'est l'aïeul, le bisaïeul, si je peux dire, du GPS.
Dès 1967.
Voilà, c'est-à-dire, il émet des ondes et on a des stations de réception. On traite les instants d'arrivée de ces ondes et on essaye d'en déduire, évidemment, les positions successives du satellite lui-même. Donc, il y a une orbitographie à faire. Là, c'est la mécanique céleste qui intervient. Et puis, la position des stations. À titre d'exemple, le tout premier essai que j'avais fait avec mon équipe, ça a été de relier une station qui était à Saint-Michel-de-Provence et une autre qui était à Beyrouth. Et nous avons été heureux de relier ces deux positions, la géodésie, à entre 10 et 15 mètres de précision. Je signale que maintenant, on fait ça au centimètre près.
Et puis, C et D correspondent à quel...
Bon, c'était simplement l'ordre de grandeur. Le B n'a pas été lancé. Et ensuite, on a mis des réflecteurs laser. Il y a une station de laser qui a été construite à ce moment-là au service d'aéronomie du CNRS. Et donc, c'était une information supplémentaire sur sa position, puisqu'on en avait la distance.
Alors, parmi les documents qui m'ont servi à préparer cette émission, vous expliquez que vous avez développé donc avec vos élèves de nouvelles méthodes de construction de théorie analytique du mouvement des corps célestes en utilisant les nouveaux moyens de calcul sur ordinateur. J'imagine que pour travailler sur ces nouveaux outils, il vous a fallu rester de longs moments sur ce qu'on appelait donc les ordinateurs. Sur ces ordinateurs.
Certainement, à titre simplement de curiosité, M. André Danjon, avant même que je parte aux États-Unis, m'avait payé un stage chez IBM pour apprendre à utiliser la première machine qui était arrivée en France. Donc j'étais l'un des tout premiers stagiaires qui écoutait les cours d'IBM. Ça se passait à ce moment-là. Place Vendôme, parce que c'était tellement neuf qu'il fallait une place de
prestigieuse.
Grande, voilà. Et puis, c'était une machine qui avait 2000 mémoires, ce qui veut dire que maintenant, vous avez bien mieux dans votre ordinateur de poche.
Ça, c'est l'évolution. Ce qui vous permet de travailler sur, bien sûr, les satellites naturels et artificiels.
Oui, alors j'ai fait ma thèse sur les satellites de Jupiter.
Oui.
Et ensuite, bien sûr, si on m'a demandé de m'occuper des satellites de la série D1, c'était essentiellement parce que j'étais le spécialiste du mouvement des corps dans l'espace. Et donc, il était tout naturel. Alors, pourquoi a-t-on choisi ça? Parce que le CNES n'était pas très riche, n'avait pas beaucoup d'idées. Mettre simplement un transpondeur ou peut-être en plus quelques cubes de verre ne coûtait pas trop cher et on pouvait faire quand même de la science qui était donc les tout premiers pas de la géodésie spatiale.
Jean Kowalewski, on marque une première pause si vous voulez bien. Dans quelques instants, nous continuerons sur l'évolution de votre carrière et nous parlerons du groupe de recherche de géodésie spatiale. A tout de suite.
Environnement, développement durable, énergie verte. Canal Académie vous propose des émissions sur ces thèmes en compagnie d'académiciens des sciences, mais aussi avec des économistes et des historiens. Que ferons-nous sans pétrole? Comment stopper les augmentations d'émissions de gaz à effet de serre? Le nucléaire est-il la solution au réchauffement climatique? Quelle gestion économique de l'eau douce dans les années à venir? Faites le point sur ces questions en téléchargeant nos émissions sur canalacademie.com.
Suite de notre émission En habit vert en compagnie de Jean Kowalewski. Jean Kowalewski, venons-en en 1971, où vous devenez le directeur du groupe de recherche de géodésie spatiale. Et ce groupe de recherche est justement créé en 1971. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes à l'initiative de ce groupe de recherche?
Je faisais partie des gens qui voulaient que cela se fasse, mais parce qu'il était nécessaire de regrouper les diverses équipes françaises qui travaillaient dans ce domaine et qui appartenaient à des organismes administrativement très différents. Donc c'était un espèce de groupe, une entente entre l'Institut géographique national, qui à l'époque observait les satellites essentiellement par des voies photographiques, le CNES, bien sûr, qui lançait les satellites, il y a eu l'Observatoire de Paris où on faisait beaucoup de travaux, et le Bureau des longitudes avec, bien entendu, notre groupe à nous. Donc on a créé cela et ça a tout de suite très bien fonctionné et on s'est fait très rapidement une place internationale avec ce groupe qui se complétait dans le fond et finissait par être un groupe d'une quinzaine de chercheurs, donc important. Et donc nous travaillions à des grandes missions spatiales mondiales avec les États-Unis, la NASA et même avec l'URSS à l'époque.
Alors, la géodésie spatiale, arrêtons-nous quelques instants dessus, si vous le voulez bien, pour bien comprendre l'intérêt de cette discipline qui est un carrefour, un pont entre de nombreuses disciplines, comme par exemple l'océanographie ou la glaciologie, mais j'imagine encore d'autres disciplines. Est-ce que c'était difficile de la mettre en avant, cette discipline, plus que les autres ?
Oui, dans un certain sens, c'était plus difficile parce qu'au départ, nous avions des précisions très faibles. Je vous ai parlé d'une vingtaine de mètres maintenant. Bon, dans les années 75, on était quand même descendu à un mètre ou quelques mètres. Et à ce niveau-là, les géophysiciens ne trouvaient pas ça intéressant. Car les problèmes à résoudre en géophysique, et les premiers que la géodésie spatiale a permis de résoudre, c'est le mouvement des continents les uns par rapport aux autres. Et pour cela, il faut faire des mesures de distance de position de station, par exemple aux États-Unis, en Amérique et en Europe, avec des précisions de l'ordre de quelques centimètres. Donc, si la géodésie spatiale n'avait pas commencé, on aurait raté le train. Ayant commencé en France, il se trouve que la France est toujours très très bien placée dans ce domaine. Et grâce à cela, maintenant, on a réussi à connaître tout à fait les mouvements des plaques tectoniques les unes par rapport aux autres. Et en même temps, vous parliez de glaciologie, ben, on mesure le mouvement des glaces. De l'océanographie, on mesure la hauteur des océans grâce à un autre système qui est le système du radar vertical. Et toujours une détermination extrêmement précise des orbites. Ça, c'est fondamental à tous les cas. Donc, la géodésie spatiale, maintenant, est devenue un des outils majeurs de la géophysique.
Donc, comme je le disais, vous êtes donc directeur du groupe de recherche de géodésie spatiale entre 1971 et 1978. Et puis, parallèlement, vous avez de l'intérêt pour l'astrométrie spatiale et la création de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Alors ça, il faut que vous nous en parliez, puisque bien sûr, ça se déroule aussi pendant ce laps de temps où vous avez un peu les deux étiquettes.
Bah, c'est-à-dire que bon, la géodésie spatiale, c'était très bien, la géodésie, mais enfin, je me sentais quand même astronome et non pas géodésien. Et j'étais bien content qu'ensuite le GRGS a pu fonctionner de ses propres ailes sans que je m'en occupe. Alors, il y a eu deux faits qui se sont produits à la fin des années 60. D'une part, M. Lacroute, qui était à l'époque directeur de l'Observatoire de Strasbourg, a eu une idée géniale qui consistait à essayer de... L'astrométrie, c'est la mesure des positions des étoiles sur le ciel. Elle dit, si on veut vraiment améliorer nos connaissances sur les positions... Bah, il faut les faire de l'espace et non pas de Terre parce que l'atmosphère est quand même un milieu turbulent qui empêche de bien viser et qui est une limitation assez grande. Et d'autre part, il a eu une autre idée alors technique qui consiste à observer à la fois deux étoiles, enfin deux champs stellaires à un certain angle l'un dans l'autre, 40, 60 degrés, peu importe, mais de loin. Et ce qui donnait à ce moment-là une référence à grand angle, ce que nous ne pouvions pas faire tellement sur Terre. On pouvait avec les astrolabes, mais il y avait beaucoup d'autres limitations. Et alors cette idée-là s'est petit à petit imposée au CNES. Et le CNES a fait des essais, techniques. Et a dit que c'était un peu trop difficile et a donc déclaré forfait en quelque sorte. Et je me suis alors là personnellement très lancé pour attaquer et essayer de convaincre l'Agence spatiale européenne qu'il fallait faire quelque chose de ce côté-là. Alors voilà, de ce côté-là, on parlera tout à l'heure de ce que ceci est devenu, le satellite Hipparcos, on en parlera tout à l'heure. Alors, d'autre part, l'autre fait qui était important, c'est là aussi les Américains, lors de la mission Apollo 11, ont déposé sur la Lune des rétroréflecteurs à laser qui permettaient, en tirant à partir d'un canon à laser sur Terre, de mesurer la distance entre le point de la Terre et le point d'impact là-bas. Et là encore, les Français n'ont pas beaucoup été en retard. Et grâce en particulier à M. Alain Orszag, avec son équipe, il a installé, et il a été aussi aidé par un de mes confrères décédés, qui était M. Grivet, pour installer un tel instrument à l'Observatoire du Pic du Midi. Et il a eu des résultats.
J'ai
participé même une ou deux fois à leurs observations. Mais le télescope de 1 mètre était insuffisant, il fallait trouver autre chose. Comme en même temps, on se rendait compte que l'astrométrie au sol végétait, en particulier parce que tous les observatoires étaient en plein centre de la ville, comme l'observatoire de Paris par exemple, celui de Besançon quand même. Et donc il fallait vraiment construire un nouvel observatoire servant réellement à faire de l'astrométrie dans un endroit... dégagé de
totalement décentralisé.
Totalement décentralisé, si possible. Alors, on a fait une campagne d'observation dans une dizaine de sites possibles. Et finalement, on a installé ce que l'on a appelé donc, le CERGA, le Centre d'études et de recherche géodynamique et astrométrique, justement pour qu'il y ait aussi la géodésie et l'astrométrie. Et cela a été créé au nord de Grasse, sur un plateau de Calerne.
Et dont vous étiez le directeur ?
Et dont j'ai été le premier aussi directeur, oui. Et le laser lune a été notre instrument phare, en quelque sorte, construit jusqu'à la fin des années 70.
C'est aussi à cette époque-là que correspond la création de l'Observatoire de Côte d'Azur ?
Non. L'Observatoire de la Côte d'Azur date des 1988, lorsque le ministère a déclaré que ça fait beaucoup de petits observatoires par-ci par-là, il faut tout regrouper. On l'a regroupé, le CERGA et l'Observatoire de Nice, en un seul établissement, qui s'appelait donc Observatoire de la Côte d'Azur.
En tout cas, petit à petit, donc, c'est vrai que vous avez ces deux chapeaux hein, pendant un certain temps, pendant 4 ans à peu près, où vous êtes à la fois à Melun, et puis donc, directeur donc, du groupe de recherche de géodésie spatiale, et puis parallèlement directeur du Centre d'études et de recherche géodynamique et astronomique, le CERGA, dont vous parliez à l'instant. Et puis petit à petit, donc, vous quittez Paris pour vous installer en fait, dans le sud de la France.
C'est-à-dire que j'ai quitté Paris à partir du moment où on a ouvert le CERGA, on a fait les premières constructions. J'y allais une fois par mois pour voir que les choses se passaient bien. Il y avait déjà une petite équipe d'astronomes sur place. Et puis, donc, j'ai déménagé là-bas en juillet, août 1974 pour le CERGA lui-même, officiellement, a commencé en septembre 1974 avec une quarantaine de personnes venant essentiellement de l'Observatoire de Meudon, mais aussi d'autres observatoires français. C'est-à-dire, d'un seul coup, ça a créé quand même une unité d'une quarantaine de personnes qui, alors, a attiré d'autres manips. Et je voudrais au moins en citer une, parce qu'elle est fondamentale, et c'est celle de l'interférométrie. Et c'est M. Labéry, qui est aussi un de nos confrères, qui est venu chez nous et a installé ces instruments d'interférométrie, qui sont des instruments remarquables pour mesurer cette fois la dimension des étoiles.
Vous êtes le directeur de ce centre, donc le CERGA, Centre d'études et de recherche géodynamique, entre 1974 et 82, 8 ans. Puis ensuite, vous continuez en tant qu'astronome au sein de ce CERGA. Et puis, donc à ce moment-là, où vous continuez en tant qu'astronome, se développe le satellite Hipparcos.
Voilà,
dont vous nous avez parlé un instant, vous nous avez donné l'eau à la bouche. Alors, ça y est, venons-en. Nous sommes donc en 83.
Bien avant, en fait,
avant.
Les études, donc j'ai proposé ceci à l'Agence spatiale européenne en 73. Bon, bien entendu, il y a eu des réunions de groupe, il y a eu un colloque pour voir si ça intéressait beaucoup de monde. L'idée est que la position des étoiles, c'est peut-être pas très intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est d'une part leur mouvement, parce que cela vous donne la dynamique de la galaxie, et deuxièmement leur distance. Et leur distance, c'est leur parallaxe, et la parallaxe, c'est le mouvement apparent qu'ils ont lorsque la Terre tourne autour du Soleil. c'est-à-dire le petit angle qu'elle a de déplacement vu entre, disons, le 1er janvier et le 1er juillet. Et cet angle est toujours inférieur à une seconde de degré. Donc il est très très petit. Et de la Terre, on connaissait très très peu. Et l'idée d'Hipparchos, après les calculs, etc., c'était qu'il précédé le lancement, enfin les théories qu'on a faites de l'instrument tel qu'on a voulu le faire, nous disaient qu'on pourrait faire des mesures à une ou deux millièmes de seconde près. D'où, évidemment, un très grand saut en avant, tant pour mesurer ce qu'on appelle les mouvements propres, c'est-à-dire le déplacement des étoiles dû à la rotation autour de la galaxie, et par rapport à la Terre, on mesure bien sûr la différence entre le mouvement du Soleil et celui de l'étoile, et puis ses parallaxes. Et c'est ça qui a emporté, je peux dire, l'adhésion de l'Agence spatiale européenne, qui ne manque pas d'autres projets et qui manque plutôt d'argent. Donc, et finalement, ça a été approuvé en 81. Et alors, à ce moment-là, ils ont fait un appel d'offres et ils ont demandé à ce que il y ait des consortiums européens qui soient créés pour faire ce que nous appelons la réduction des données, c'est-à-dire la transformation des données brutes envoyées par le satellite en quantité astronomique. Et là, j'ai été un de mes collègues européens qui se sont joints à ce projet. Et il y a eu 13 laboratoires, groupes dans des observatoires en Italie, en France, en Allemagne et en Hollande. Et au cours d'une réunion qu'on a eue à Rome, ils m'ont demandé de le diriger.
Donc vous avez dirigé ces 13 équipes européennes, et qui donc a permis de dresser une carte du ciel, en fait, une cartographie de 120 000 étoiles.
Voilà, alors à condition, je vous dis, la cartographie, c'est, ça frappe l'imagination. Ce qui est important, c'est qu'on a eu pour chacune de ces étoiles la parallaxe au millième de seconde de degré et les mouvements propres au millième de seconde de degré par an. Et c'est ça qui sont les vraies données astronomiques qui ont permis de faire des grosses avances sur l'étude des étoiles et en particulier en astrophysique.
Et vous, donc, vous avez dirigé cet ensemble d'équipes de 1981 jusqu'à 1996.
Jusqu'à ce qu'on ait fini le travail. Ensuite, le groupe s'est dissous parce que le travail était fini.
Un travail bien mené. Je vous propose de marquer une seconde courte pause, Jean Kovalevski. Et dans la troisième partie, nous reviendrons bien sûr sur vos travaux. Nous parlerons aussi bien sûr de la métrologie, qui est votre autre cheval de bataille. A tout de suite. De notre émission En habit vert, toujours en compagnie de Jean Kovalevski. Dans cette troisième partie d'émission, Jean Kovalevski, on va laisser le satellite Hipparchos, pour lequel vous avez travaillé et dirigé 13 équipes d'un domaine européen, dans le cadre européen. Et intéressons-nous, si vous voulez bien, à la métrologie. Puisque, je vous pose la question, puisque vous y êtes intéressé, quel est, malheureusement, je vais vous poser cette question-là de manière un peu provocatrice. Quel est l'intérêt de la métrologie ?
Alors, la métrologie, c'est la science de la mesure.
Oui.
Mais plus particulièrement, c'est une organisation très structurée, tant du point de vue mondial que du point de vue national en France, qui consiste à avoir, dans certains laboratoires, des étalons, des principales unités de mesure et qui servent de premier étage à des étalonnages au fur et à mesure dans tous les organismes pour lesquels la mesure est importante. C'est-à-dire, en fait, toute l'industrie, tout le commerce et bien d'autres. Et donc, la métrologie scientifique, c'est celle qui se préoccupe d'améliorer les étalons de base, exemple le mètre, la seconde, le kilogramme, l'ampère, le Kelvin qui est l'unité de température, il y a aussi une unité de candela de luminance. Et voilà. Donc ça c'est le, je peux dire, le chapeau à partir duquel partent un tas de lignes en quelque sorte d'étalonnages successifs et qui aboutissent dans n'importe quelle industrie. Et maintenant, vous avez vu, il y a des normes, normes FR, normes EU, et toutes pour qu'un produit ait ces normes, il faut qu'il soit rattaché par des étalonnages successifs aux standards français, en France, et celui-là est rattaché ou fait partie d'une standardisation totalement mondiale. Alors, pour prendre un exemple, lorsque vous achetez de l'essence, vous voyez qu'il y a toujours une petite étiquette verte qui vous dit que ce compteur a été vérifié tous les ans. Eh bien, ça a été vérifié par des mesures, par des méthodes de mesure qui sont finalement à l'aval de tout ce que nous faisons en métrologie. Donc, vous voyez, c'est une importance économique très grande. Et ça a été le grand succès de la France que d'avoir imposé le système métrique au monde entier. Le système métrique créé pendant la Révolution, mais enfin il a mis beaucoup de temps à se développer, mais c'est en 1875 qu'il y a eu une conférence du maître qui a établi le Bureau international des poids et mesures et qui est l'organisme qui préside à cette fois à la fixation et à la comparaison des unités primaires des pays. Il y a actuellement 50 pays qui sont partis ça. Et alors donc en France, je me suis retrouvé président du Bureau national de métrologie, qui est donc qui comprenait un certain nombre de laboratoires, au Laboratoire national d'essai, à l'Observatoire de Paris pour le temps, au CNAM, et aussi au CEA pour les mesures radioactives, etc. Et en même temps, j'ai été le représenté de la France, j'ai même représenté la France avant même, au niveau international, au BIPM, ce qu'on appelle le Comité international des poids et mesures, dont, au bout de quelques années, en 1996, je suis même devenu le président.
Est-ce qu'on est autant éloigné qu'on pourrait le penser à première vue de l'astronome que vous êtes et de l'astronomie, et donc votre discipline ?
Oui et non. Lorsque on a fait Hipparcos, c'est de l'astrométrie, mais c'est une mesure archi-précise, faire des mesures d'angle à un millième de seconde de degré près, c'est de voir la dimension d'une balle de ping-pong qui serait à New York vue de Paris. Donc, c'est de la métrologie spatiale, si vous voulez. C'est déjà de la métrologie. D'autre part, je m'étais intéressé au problème du temps. Et la seconde est définie à partir du temps. Elle l'était autrefois par les astronomes. Maintenant, ce sont des horloges atomiques qui le font. Donc, si vous voulez, j'étais prédisposé, en quelque sorte, à m'intéresser à cela. Et j'avoue que ça m'a apporté beaucoup de choses, d'autant plus que très rapidement, j'avais pris ma retraite, je n'avais plus de travaux administratifs qui, en général, encombrent les chercheurs qui ne sont pas encore à la retraite. Et j'ai profité de ça, tout en continuant à faire de l'astronomie, à m'occuper de cela.
Alors aujourd'hui, en 2009, quels sont les sujets sur lesquels vous vous penchez? Puisque très souvent, les scientifiques, même quand ils sont à la retraite, n'y sont pas réellement.
Bien, écoutez, je continue à m'intéresser à la métrologie puisque je suis co-président du comité sciences et métrologie de l'Académie des sciences. Je suis membre honoraire du Comité international des poids et mesures auquel je vais de temps en temps. Donc pour la métrologie, je continue. J'ai quand même fait plusieurs, ou été à la tête d'un groupe faisant plusieurs rapports là-dessus, soit à l'Académie des sciences, soit à l'Académie des technologies. Et puis autrement, je m'intéresse à l'histoire de ma famille. Également, je m'intéresse beaucoup aux relations entre la science et la religion.
Science et religion.
Je suis orthodoxe, croyant, et pour moi, il est nécessaire que la religion reconnaisse, et elle peut le faire, ce n'est pas à l'encontre de ses fondements, reconnaisse tous les progrès de la science.
Mais je pense que c'est le cas.
C'est le cas. pas toujours. Hein. Nous avons ce qu'on appelle les créationnistes contre lesquels il faut se battre.
Nous allons fêter les 50 ans de la conquête de la Lune. J'imagine que vous avez un souvenir. Quel est votre regard aussi avec le recul, maintenant avec 50 ans passés, un demi-siècle? Quel est votre regard d'astronome sur cette conquête? Est-ce que vous avez un souvenir sur, j'imagine, une sorte d'émulation concernant cette nouvelle avancée, en fait?
Certainement, puisque c'est justement lors de la première descente d'Armstrong sur la Lune qu'il y a eu le dépôt du premier rétro, c'est le réflecteur qui a été utilisé pour le laser Lune, donc on en a directement utilisé. Mais si je peux me permettre d'avouer...
Avouer, oui.
Eh bien, lorsque ce lancement a eu lieu, nous étions en famille dans la montagne, quelque part dans la vallée d'Aoste, et je ne savais absolument pas qui ce s'était passé.
Mais après, vous n'avez pas forcément eu de... Si, vous avez après... Vous avez
ah non, bien sûr. Mais enfin, c'est vous dire que, alors que tout le monde était accroché, nous, on était dans notre montagne, dans notre chalet.
Ça. Eh bien, comme ça, vous étiez vraiment l'astronome, la tête dans les étoiles, si je puis dire. Merci, Jean Kovalevski. Et puis, j'invite nos auditeurs à télécharger les émissions sur le thème de l'astronomie. Il suffit de cliquer tout simplement sur le thème astronomie et vous trouverez toutes les émissions. Merci et au revoir, Jean Kovalevski.
Au revoir.